Chapitre 45. Entouré par des érudits détenteurs du don, Nathan trouvait leur compagnie à la fois rafraîchissante et stimulante.
« Si je pouvais passer 1000 ans ici, dit-il, je deviendrais le plus grand sorcier de tous les temps. »
Voyant que Simon lui apportait une nouvelle pile de grimoires, il eut un sourire teinté de lassitude.
« 1000 ans ? »
soupira le conservateur en chef. Sur la table de travail, il fit des tas réguliers avec les volumes.
« J'adorerais passer des siècles à lire, à étudier et à apprendre. Hélas, je n'ai qu'une vie d'homme à ma disposition. »
« C'était un des rares avantages du palais des prophètes. Un sort nous empêchait de vieillir. »
Nathan regarda la montagne d'ouvrages qui l'attendait. Des livres classés par sujet, avec parfois des marque-pages pour lui signaler les passages pertinents.
Mais si la balafre continue à s'étendre, il nous reste peut-être moins de temps que nous le pensons.
Acharnés à trouver des informations sur le buveur de vie, les érudits consultaient des centaines de livres en quête d'indices susceptibles d'aider le vieil homme. L'idéal, selon Nathan, aurait été de découvrir le sort initial utilisé par Roland pour vaincre sa maladie, celui qu'il avait transformé en monstre. Au palais, Nathan avait appris la lecture rapide. Même en ayant beaucoup de temps devant lui, la quantité de grimoires l'avait incité à ne pas lambiner. Capable de lire un texte à la vitesse où il tournait les pages, il pouvait assimiler plusieurs volumes en une heure. En 2 jours, il avait déjà lu des étagères entières. Sans grand résultat. Sur le sort du buveur de vie, il ne savait quasiment rien de nouveau.
« Voyons voir, » fit-il pensif. « Tu m'as bien dit, Simon, que Roland a utilisé un sort conservé par les mémoristes. »
L'un d'eux se souvenait en partie du sortilège. Ses suggestions ont aidé Roland à chercher au bon endroit. Simon baissa les yeux sur un livre au titre en relief, puis il le posa à l'écart. « Nous n'avons pas pu mettre la main sur le texte complet du sort, du coup nous devons nous fier à Victoria. » Simon plissa le front, ce qui le fit paraître beaucoup plus vieux.
« La mémoire peut se tromper. Je préférerais une vérification objective. »
Comme si on l'avait appelé, la mémoriste en chef arriva, ses 3 superbes acolytes sur les talons. Ayant entendu les dernières phrases de Simon, elle tirait la tête. Par solidarité, Audrey, Laurel et Sage semblaient indignés.
« Les mémoristes sont au-dessus de tout reproche !»
dit Victoria en se campant près de la table de travail.
« Sans moi, aucun de vous ne serait en mesure d'étudier ces livres. Qui a découvert le moyen de dissiper le camouflage ?»«
Sans toi, » répliqua Nathan. « Roland n'aurait rien pu étudier et nous aurions moins d'ennuis. »
Encouragé, Simon se redressa de toute sa hauteur pour regarder de haut la mémoriste en chef. « Tout le monde ici apprécie tes services passés, » dit-il. « Il fut un temps où les mémoristes étaient précieux. Mais c'est terminé. » « Vous frisez l'obsolescence, Victoria. Des érudits détenteurs du don ont accès à la totalité des archives, pas seulement à une sélection arbitraire de textes. »«
Les mots écrits sont différents des mots mémorisés, »
grinça Victoria en se tapotant la tempe.
« L'important, ce n'est pas ce qui est rédigé, mais ce que nous savons. »
Simon ne cacha pas son total désaccord.
« Des connaissances non écrites ne peuvent pas être diffusées correctement. » « Comment puis-je étudier ce qui est dans ta tête et mes érudits? Sans voir tes pensées, comment pourraient-ils les analyser puis proposer leurs conclusions? Que pourriez-vous apporter à notre ami le sorcier Nathan ?»«
Nous lui dirons tout ce qu'il veut savoir, » insista Victoria.
Agacé, Nathan leva une main.
« Assez de disputes, par les esprits du bien. Surplomb du monde est une mine d'or de connaissances et nous devons l'exploiter. Vos querelles de clochers ne nous mènent à rien. »
Prenant sur lui pour ne pas envenimer les choses, Simon décida de s'en aller.
« Je vais continuer à sélectionner des livres. Pendant ce temps, ces femmes te raconteront les histoires qu'elles ont dans leur crâne. »
Hautaine, Victoria regarda le conservateur en chef gagner dignement la sortie.
« Sorcier Nathan, n'accorde pas trop d'importance à notre jeune Simon. J'ai peur que son poste le dépasse. Classer ses archives est une tâche surhumaine qui occupera des générations d'érudits. Les mémoristes, eux, ont résolu depuis des millénaires le problème de la conservation des connaissances. Il semble logique que Simon éprouve un sentiment d'urgence.
Chère dame, il y a urgence. Si le buveur de vie continue à tout absorber, nous sommes tous condamnés. »
Le vieil homme passa les doigts dans sa superbe crinière blanche.
« Je dois savoir ce que vous avez mémorisé, c'est vrai. Mais, comme l'a souligné Simon, je ne peux pas accéder à ce qui est stocké dans vos têtes. »
Victoria eut un doux sourire maternel. « Nous te guiderons, sorcier. Dis-nous quel livre tu veux connaître et nous te les réciterons. »
Nathan pouvait lire bien plus que ça, même si un mémoriste avait un débit hors du commun. Mais si Victoria et les autres sélectionnaient certains passages, leur méthode aurait peut-être un intérêt.
Le vieil homme regarda Audrey, Laurel et Sage. Trois types de beauté très différents.
« Tu les chéris, mais ce ne sont pas tes filles, c'est visible. Vous devez être très proches. »
« Ces braves petites ont passé leur vie avec moi. Tous les mémoristes sont mes enfants adoptifs. »
Un voile de tristesse tomba sur le visage de Victoria.
« Je n'ai jamais eu d'enfant. Pourtant, avec mon mari, nous avons essayé. Bertram et moi, nous rêvions d'une grande famille, mais... »
La mémoriste détourna la tête.
« En trois occasions, je suis tombée enceinte. Un espoir fou. J'avais même commencé à tricoter des habits de bébé. Hélas, ce furent trois fausses couches. Après, Bertram est mort. »
Victoria eut un profond soupir, puis elle regarda ses acolytes pleines de tendresse.
« J'ai réorienté mon instinct maternel. Au fil des ans, j'aurais eu une bien plus grande famille que prévu, même dans nos rêves les plus fous. J'ai protégé les mémoristes parce que c'était mon devoir. Chez nous, les connaissances sont transmises de parents à enfants, indépendamment de ce qui est écrit dans les archives. Sorcier, je refuse de renoncer à cet héritage. Quand Surplomb du monde était inaccessible, qui a préservé ses trésors ?»
Des larmes aux yeux, les trois acolytes acquiescèrent et Victoria vint les enlacer.
« Parfois, je regrette d'avoir dissipé le sort de camouflage. » « Pourtant, il le fallait, » dit Laurel. « Il était temps, »
ajouta Sage. Intrigué, Nathan leva les yeux de ses grimoires.
« Comment as-tu fait après des milliers d'années ? J'avais cru comprendre que personne ne savait comment neutraliser le sortilège. »
« Une des rares erreurs des mémoristes, et de moi-même. »
Nathan croisa les mains sur la table.
« Je t'écoute. »
« Comme je te l'ai dit, ce camouflage était aussi une barrière, ce qu'on appelle un sort de préservation. Surplomb du monde était caché derrière un rideau de temps. En d'autres termes, le complexe n'était pas seulement voilé, il se trouvait ailleurs. Les premiers mémoristes savaient qu'il faudrait dissiper ce voile secret le moment venu. Sinon, à quoi bon préserver les connaissances? Les détruire aurait tout aussi bien fait l'affaire. De génération en génération, les mémoristes se transmettaient la clé. 3000 ans après la fin des Grandes Guerres, les habitants du canyon ont jugé qu'il était temps d'en finir avec le camouflage. Hélas, le contresort mémorisé 30 siècles plus tôt ne fonctionnait plus.
Victoria posa une main sur son plexus solaire et inspira à fond.
À un moment, il y avait eu une erreur. Le texte était globalement bon, mais des nuances manquaient. À un stade de la transmission, quelqu'un avait commis une erreur.
Victoria baissa les yeux comme si cette révélation déshonorait tous les mémoristes.
« Esprit bien-aimé !»
souffla Nathan.
« Bien entendu, nous ne pouvions reconnaître cette erreur devant personne. Dans le canyon, pendant des millénaires, des gens avaient consacré leur vie à garder le secret. Ils avaient confiance en nous. Comment leur dire que nous avions oublié une partie du sort ?
Pour gagner du temps, nous avons argué qu'il était trop tôt pour dévoiler les archives. En réalité, nous ne savions que faire. Pendant un siècle, mes prédécesseurs ont espéré qu'une solution se présenterait. Après tout, quelqu'un pouvait trouver ce qui avait cloché. En secret, les mémoristes priaient pour qu'un miracle se produise. »
Victoria leva les yeux et soutint le regard azur de Nathan.
« Le miracle, c'est moi qui l'ai fait, à cause d'une erreur. Le fameux sort, je l'ai incorrectement mémorisé, une inversion de syllabes dans la langue morte d'Ildakar. »
Victoria continua, tout excitée.
« Et ça a marché.
J'étais une fille de 17 ans formée par ses parents, et il a suffi d'une simple erreur. »
Nathan eut un petit rire.
« Plutôt une correction, très chère dame. Par hasard, tu as remis les choses dans l'ordre et prononcé les bonnes paroles. Du coup, le camouflage a disparu et les archives sont redevenues disponibles. C'était ton but, non ?»«
Oui, »
souffla Victoria sans grand enthousiasme.
« Pendant des millénaires, parce qu'ils détenaient des connaissances inaccessibles, les mémoristes étaient à la fois puissants et respectés. En neutralisant le camouflage, ce qui a conduit à l'invitation d'érudits extérieurs, j'ai peut-être conduit à sa perte ma propre corporation. »
« C'est possible, oui. »
Nathan se frotta vigoureusement les mains.
« Mais aujourd'hui, ces trésors sont disponibles et ils nous aideront à vaincre le buveur de vie. »
Victoria ne se dérida pas.
« Ces connaissances sont dangereuses si elles tombent entre de mauvaises mains, ou simplement entre celles de gens pas assez formés. C'est ce qui est arrivé avec le buveur de vie. »
« Ma mère était un professeur impitoyable. Je devais répéter ces mots à l'infini jusqu'à ce qu'ils se gravent dans ma mémoire et dans la moelle de mes os. En cas d'erreur, elle me donnait la badine et elle me mettait sans cesse en garde contre les conséquences que pouvait avoir une infime imprécision. »
Victoria haussa les épaules.
« Mon père souriait souvent et il était plus patient. Mais elle lui reprochait de ne pas prendre son rôle au sérieux. Quand elle l'accusa de m'avoir transmis une phrase incorrecte, il éclata de rire, ravi que le sort de camouflage ait été enfin neutralisé, grâce à sa fille, en plus de tout. Une bonne raison de faire la fête, dit-il. Plus de camouflage !»
Victoria se pencha sur Nathan, que cette histoire fascinait.
« À cause de ça, ma mère l'a tué. Avant qu'il comprenne ce qui se passait, elle l'a poussé du haut de la falaise, sans même se pencher pour le regarder tomber. Moi, je l'ai entendu crier jusqu'à ce qu'il s'écrase sur le sol. Ma mère choisit ce moment pour me rappeler mon erreur.
« Ne vois-tu pas à quel point c'est important? Ne saisis-tu pas que chaque syllabe doit être prononcée parfaitement? Si tu ne vénères pas les mots, les risques sont terrifiants. »
Je tremblais de peur. Dans le canyon, les gens criaient en approchant du cadavre de mon père. Mais ma mère ne se souciait que de moi. Les yeux fous, elle me soufflait son haleine chaude au visage.
« J'ai tué ton père pour nous protéger tous. Et s'il avait cité de travers un sort incendiaire? S'il t'avait par étourderie appris à déchirer le voile pour faire entrer le gardien dans le monde des vivants ?»
J'ai dû reconnaître la gravité de la faute de mon père. Et nous ne l'avons jamais pleuré.
Des larmes roulèrent sur les joues de Victoria.
« Si ton erreur a corrigé une erreur, pourquoi devrais-tu te sentir coupable ?»
demanda Nathan.
« Parce que cette erreur a montré à tout le monde que notre mémoire parfaite ne l'est pas tant que ça.